Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahi la yawmiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma allamtana, innaka anta al-alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem. Rabbi shahli sadri wa yassir li amri wa hlul aqdata min lisani yafqahu qawli. Toutes les louanges reviennent à notre Seigneur Azza wa Jal qui nous permet de consacrer 20 minutes après la salat al-Isha pour étudier une partie de la vie de notre prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. On ne s'est pas trompé de livre, on ne s'est pas trompé de programme, c'est bien un quoi de sirat, c'est le quoi de sirat que nous faisons à Montreuil un mardi sur deux. Mais on a dit que voilà, pendant le mois de Rabi'ul Awwal, on va faire un peu plus de programme sur la biographie de notre prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Alors la petite difficulté, ce sera de, par rapport à ceux qui sont plutôt nourris islam, c'est de resituer à quel endroit on est dans la sirat, mais ça va être chose très simple. On est à Mecca. On sait que la vie du prophète alayhi salat wa sallam, c'est entre deux villes. Ils peuvent répondre aux questions, tes enfants? Quelles sont les deux villes importantes? Mecca et Medina, d'accord. Donc le prophète alayhi salat wa sallam a passé 13 ans, ça a dit pas là, ton fils, frère, il a passé 13 ans à Mecca et combien d'années à Medina? 10 ans à Medina, ce qui fait une prophétie de 23 années. Là on est au tout début, on est à Mecca al-Mukarrama, on est à quelle étape de la sirat? On est après la première révélation. Première révélation, c'est quelle sourate? Si on est devant, c'est qu'on a les réponses, hein? Sajid? Mais il faut. D'accord. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Le prophète alayhi salatu wa salam a reçu Iqra. Il a commencé à propager tout d'abord à ses proches, la famille proche. Et on connaît, enfin, on ne va pas refaire tout, hein, mais les premières personnes à être entrées dans l'islam. Ensuite, Allah Rabbul Izza lui donne l'ordre maintenant, wa anzir ashirataka al-aqrabin, fasta' bima tu'mar, des versets qui lui demandent d'ouvrir sa da'wa. La da'wa devient ouverte, il y a les premiers ennemis, parmi eux le fameux Abu Lahab, à propos duquel Allah a révélé une sourate qui le maudit, ainsi que son épouse, et qui est la sourate Nuruddin. Tabat yada Abi Lahabim wa tab. Mais pour le moment, que ce soit Abu Lahab, que ce soit Abu Jahl et l'ensemble des Quraysh considèrent que la prêche de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est marginale. C'est quelque chose de voilà. C'est pas grand chose et ça ne nous dérange pas. Sauf que les jours passent, les mois passent et il y a de plus en plus de personnes qui acceptent l'islam et dans toutes les tribus arabes et principalement chez les Quraysh. Et donc là ça commence à poser problème. Ça commence à poser problème parce que quand Allah Rabbul Izzah demande au prophète alayhi salat wa salam maintenant d'ouvrir sa prêche et d'une certaine façon de mettre en garde contre le shirk. Et c'est là que ça va toucher les Quraysh. Il y a une première délégation de chefs de tribu qui vont voir Abu, non ça vous pouvez pas savoir ça, Abu Talib, l'oncle du prophète alayhi salat wa salam, l'oncle bien-aimé du prophète alayhi salam, et pour lui demander de convaincre son neveu d'arrêter cette prêche. Ça c'était un point qu'on avait vu. Et là ce que nous voyons ce soir, on avait fait un programme en ligne la dernière fois, c'était les tentatives des Quraysh en vue de stopper la progression de l'islam. Et on va voir qu'ils ont une méthodologie. Parfois c'est un peu gros doigt, excusez-moi l'expression, parfois c'est des méthodes un peu maladroites, mais parfois c'est millimétré. Et vous savez, ces Quraysh, ils étaient intelligents. C'était des chefs, c'était des personnes très éloquentes, avec un pouvoir de persuasion. Leur aura dépassait les frontières de Mecca. C'était des gens, des nobles. Et donc, tout ce qu'ils prenaient comme décision, c'était en concertation. Et donc, le plan qu'ils vont essayer, ou alors on va dire le plan qu'ils vont mettre en place pour contrer la prêche du prophète alayhi salat wa salam, ça va être un plan méthodique avec parfois des approches un peu maladroites, mais des approches extrêmement précises, pointilleuses, intelligente. Mais chacune de ces approches fait très mal. C'est là qu'on a besoin d'un regard un peu, on va dire, un peu plus subjectif sur la sirat. Ce n'est pas juste énumérer qu'est-ce qui s'est passé, mais essayer, permettez-moi de le dire, de se mettre à la place du prophète alayhi salat wa salam en tant qu'être humain. Qu'est-ce qu'il a pu vivre, subir, ressentir lorsqu'il voit les membres de sa famille, ses proches, Abu Lahab, oncle, Abu Jahl, oncle, d'accord ? Et il me semble dans le duo la dernière fois, pour ceux qui ont écouté, on avait rappelé que chez les Arabes, l'oncle était l'équivalent du papa. Et quand le prophète alayhi salat wa salam était yatim, il n'avait pas de papa, ben, théoriquement ses oncles devaient lui donner cet amour paternel. Et il l'avait donné, il l'aimait énormément. Et du jour au lendemain, ses propres tontons, ses propres oncles deviennent son ennemi. Et donc, essayer c'est presque irrespectueux de le dire, de se mettre à la place, mais comprenons qu'est-ce que le prophète a vécu a ressenti en tant qu'être humain. Je me mets à sa place, comment aurais-je réagi si quelqu'un vient et me dit ça, et on voit comment le prophète, alayhi salat wa salam, dans toutes ces situations, a fait preuve de patience, de persévérance. Et il y a un terme que j'aime bien, c'est at-tahammul fi da'wa ila Allah. Il a pris sur lui, il a été patient, il a pris sur lui en se remettant à Allah Azza wa Jal, parce qu'il sait qu'il est en train d'accomplir une tâche qui est noble. Et on va voir également, à chaque fois je dis on va voir, mais on ne commence pas. Autant qu'on voit tout de suite. Bien. Parce qu'il y avait une autre leçon, mais ça, je vais le garder en conclusion. De toute façon, on ne va pas foirer. Il y a 5 points. Premièrement, la dérision, la dépréciation, la négation. Bon, c'est une traduction, donc il ramène des mots savants. Le fait de se moquer du prophète, alayhi salat wa salam, de l'insulter, il le traitait de posséder, de déséquilibrer. Le fameux verset, wa qalu ya ayyuha alladhi nuzzila alayhi dhikru. Innaka la majnoun. Il traitait le prophète alayhi salat wa salam de possédé, de fou. Les savants en sirat disent, imaginez, vous êtes la personne la plus aimée de votre famille, à Makkah, tout le monde. Vous avez aidé votre peuple à replacer la fameuse pierre noire, qui a évité une guerre de tribus. Tout le monde te considère comme étant le meilleur quand ils ont vu que c'est lui qui rentre dans la masjid et qu'il devait choisir, excusez-moi, la première personne qui rentre dans la masjid, c'est lui qui placera la pierre noire, qui donnera la décision. Quand ils ont vu que c'est lui, qui s'est dit, ah, lui c'est Al-Amin. Bref, les éloges que les gens font de lui, alayhi salat wa salam, et du jour au lendemain, ils le traitent de fou, de possédé, de menteur. C'est-à-dire, la première étape, ce sont les insultes. C'est-à-dire, essayer de le toucher psychologiquement. C'est très dur, ça, vous savez. Je vous promets, ça, c'est dur, ça. Vous savez, quand on parle de harcèlement moral de nos jours, c'est pas grand-chose, des fois. Il suffit de, comme on dit en créole, quelques petits moucatages. Il n'y a rien de plus plaisant que ça. Quelques petits moucatages, mais appuyés, répétitifs, qui fait qu'à un moment donné, la personne craque, ainsi de suite. On n'est pas à ce niveau-là. On est dans des insultes de façon permanente. C'est plus qu'un harcèlement. Et d'autant plus, je le dis, je le redis, venant de ta propre tribu, de tes propres tontons, tes oncles, qui essaient de te discréditer par rapport à l'ensemble des Arabes, c'est quelque chose qui va faire très mal au prophète alayhi salat. Et à différentes étapes de la sirat, nous allons, parfois il y a des indices où on voit que le prophète a mal. Parce que le prophète d'Allah, mais avant tout, c'est un être humain avec des sentiments, avec l'envie d'être aimé. Et personne n'aime se faire insulter ou humilier en public, vous comprenez ? Et donc on verra, enfin, en sirat, on passe un peu en revue ce que c'est. Il y a un ordre chronologique, mais vous savez, par exemple, ça a déjà été vu, ça. Quand le moine Bahira lui avait dit que tu vas commencer ta mission, ça va être difficile, ton peuple va te rejeter, et ils vont compléter, et ils vont. Je reprends. Bahira avait dit, tu vas commencer ta mission, tu es prophète d'Allah. Tu vas inviter ton peuple vers la religion des prophètes, le tawhid, ton peuple va refuser. Tu vas avoir beaucoup de difficultés et en finalité, ils vont t'expulser de Makkah. Et là, le prophète a dit, « Au mukhrijini, comment ils vont m'expulser de Mecca. Mais c'était jamais dans la plainte, mes chers frères. C'était jamais se plaindre. Mais on voit des petits signes où le prophète était très attristé, très peiné de voir comment est-ce que son peuple va ou aller et aller donc réagir. Et donc là, ces insultes, ça affecte le prophète alayhi salatu wassalam, mais il n'y a pas une fois où le prophète a répliqué de la même façon que ces gens. Il n'a jamais dit aux gens, non, c'est vous les menteurs, c'est vous les fous, c'est vous les possédés. De toute façon, vous irez tous en enfer. Je pense que humainement, c'est une réaction qu'on aurait eue. Et on y rentre, tu rentres, tu lis. Mais le prophète alayhi salatu wassalam avait une noblesse de caractère. Vous savez, la noblesse de caractère, hein, c'est pas quand tout le monde vous respecte et que tout va bien. La noblesse de caractère, c'est quand on vous bouscule. Vous savez, nous, la Réunion, alhamdoulilah, et je parle avec beaucoup de compassion pour nos frères et sœurs en métropole, parce que par rapport à ce que je vais dire, on est bien. On est, mashallah, vous savez comment on est, alhamdoulilah. On marche de la rue avec notre grande barbe, de notre thawb et tout. Pas de problème. Non, ça c'est mauricien. Mais même à Maurice, ça se passe. Il n'y a aucun souci, alhamdoulilah. On est respecté. Moi, j'ai jamais eu des remarques de quelqu'un, même dans les périodes les plus difficiles, qu'il y avait les attentats, il y avait Charlie Hebdo, il y avait des trucs terribles. Hein. Jamais eu vraiment de remarques. Non, du tout, alhamdoulilah. Donc quand tout va bien, les gens te respectent et tout, ben, il est normal que tu aies un bon comportement. Allez en France. Pour ceux qui ont vécu ou habité ou autre, bon, alhamdoulilah, il n'y a pas de période difficile, mais imaginez dans les périodes difficiles, ou après les attentats et ainsi de suite, quand il y a un climat qui est très lourd, vous êtes en métropole. Moi j'ai des amis qui ont été là-bas après ces périodes-là, ils devaient y aller pour les vacances ou autre chose, mais c'était vraiment des insultes. C'est vraiment des situations difficiles. Et c'est quand on te bouge, on te bouscule, c'est là qu'on voit est-ce que tu as la noblesse de caractère ou alors il y a ton côté sauvage, bestial qui prend le dessus. Est-ce que ton but c'est de protéger ton izzah? Est-ce que ton but c'est de protéger ta personne, défendre ton corps et ton âme, ton honneur, le nom de ta famille, ou alors le but c'est d'être transparent, de se faire tout petit et de faire pour Allah mukhlisin alahuddin, walau karihal mushrikun ou kafirun. Donc c'est soit tu es là pour défendre ton honneur, ou alors tu te dis que je ne suis qu'une créature d'ordre, je suis un pion. Allah m'utilise dans sa da'wa, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on me dise, j'appartiens à Allah. Et je m'en remets à lui. C'était la réaction noble de notre prophète alayhi salatu wassalam. Réaction noble qui est associée à un husnul dhann billah. Une pensée positive à propos d'Allah. Être conscient que si Allah envoie ces situations, c'est qu'il y a un khair. Et qu'il y aura une ouverture après ça. Et ça, c'est une leçon importante par rapport aux insultes. Ce que nous pouvons vivre, ou je ne sais pas, quelle que soit la situation d'épreuve qu'on peut avoir dans la société, identifie-toi au prophète alayhi salatu wassalam. Il a vécu des situations beaucoup plus graves, dramatiques, où on l'insultait. D'accord ? Et on verra même par la suite tentative de lui faire du mal. Quand justement, on parlait d'Abu Lahab, qu'est-ce qu'il faisait Abu Lahab exactement ? Et sa femme, surtout sa femme, Hammalatal Hathab, la porteuse de, comment c'est traduit, de bois, oui, de oui, fagot, oui. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mettait des branches épineuses devant la porte de la maison du prophète alayhi salat wa salam. Et quand le prophète sallam sortait très tôt, bien sûr pas d'éclairage, on comprend, le prophète marchait sur ces branches épineuses, ça le blessait, ça le faisait très mal. Vous avez déjà marché sur une épine de bougainvillier? Bougainvillier, appelle ça, non? Il y a des petites fleurs roses là, avec des épines comme ça. Marchez dessus. Enfin, si ça vous arrive, ça transperce votre savate, ça vous pique et vous pensez au choix, moment, nénène. Il y a plusieurs possibilités. On éviterait tout ça. On dirait juste inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça fait super mal. Et en plus, tu le fais de façon, voilà, accidentelle. Mais quand tu sais que quelqu'un le place devant ta porte, je sais pas si vous avez déjà vu les branches épineuses, le désert avec des ronces et tout, c'est de ce type ou plus encore. Et que donc, le prophète sallam, ça le blessait, mais il n'y a jamais eu de parole déplacée. Il avait juste dit à la famille d'Abu Lahab, quelle est votre conception du voisinage? C'est quoi ce voisinage? Mais il n'y avait rien de mauvais. Donc je m'identifie au prophète sallam, et je me dis que cet homme avait une noblesse de caractère, donc quoi qu'il m'arrive, du moment que je ne suis pas en tort, hein, c'est pas comme si que là, on a fait du mal à quelqu'un, il te répond, ben là, en caisse, on l'a bien mérité. Non, tu es dans une cause noble et on te fait des reproches, dis-toi que mon modèle c'est Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Hada. Il y avait également les insultes maintenant envers les musulmans et principalement, tout le monde, même Abu Bakr a eu des difficultés, As-Siddiq radiallahu anhu, alors que c'était un homme riche, de grande famille, de grande lignée, qui était aimé vraiment à Mecca. On connaît les différentes histoires. Et quand il s'agissait des musulmans qui n'appartenaient pas de grandes familles, on va dire des familles nobles, d'accord, ben là, c'était encore plus difficile pour eux. Et les Quraysh disaient, alors si on retrouve le verset, non là je n'ai pas le verset, هَاُولَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا, c'est exactement, oui, de nous tous, est-ce donc cela que Dieu a comblé de ses faveurs. Quand il voyait des pauvres, je résume, quand il voyait des pauvres, en fait, le Cheikh Moubarak Fouri, il cite tellement de versets qu'on a du mal à retrouver le bon verset. Quand il voyait des pauvres autour du prophète, alayhi salatu wassalam, il se disait que bah, ton Seigneur, il a trouvé que ces pauvres-là, ces malheureux-là, pour être avec toi. Donc, c'est ça ton public, et pas des gens nobles comme nous. C'est la même réaction que le peuple de Nuh, alayhi salam, lorsqu'il voyait Nuh, alayhi salam, accompagné de pauvres. « Qalou anu'minu lakawat » Wattaba'akal arzaloun. C'est la fierté, l'orgueil qui fait que ces Quraysh ne voulaient pas, c'est une des raisons pour lesquelles ne voulaient pas avec le prophète alayhi salat wa sallam, parce qu'il y avait trop de pauvres. Il y a une personne qui les dérangeait aussi dans son assemblée, c'était qui? Un noir. Bilal ibn Rabah. Vous savez que les Quraysh étaient très racistes. Et ils étaient même racistes entre eux, c'était pas qu'une question de couleur, hein. C'est-à-dire que si tu n'appartiens pas à des tribus nobles, tu peux être arabe et tout, hein, habiter juste en face, mais si tu n'appartiens pas à une tribu noble, c'était comme en France, hein, quand on parle de la noblesse, voilà quoi. Hein. Il y avait dans la bourgeoisie des personnes plus riches que les nobles. Mais tant que tu n'as pas le sang bleu, le sang noble, tu n'avais pas ta place, bref, on a compris, tu n'avais pas ta place à Versailles, ainsi de suite pour les repas. Donc, ce que les Quraysh, voilà, ce qui les déplaisait également, c'est la présence de Bilal ibn Rabah radiallahu anhu, entre autres, présent auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça aussi, ça touche le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il remette en question la sincérité et l'intégrité des gens qui sont avec lui. Maintenant, je vous donne un exemple parmi tant d'autres, c'est pas forcément lié à ce premier point, mais en rapport avec les insultes. Là, on n'est pas à Mecca, on passe à Medina, autre chose, mais juste pour mettre en avant la noblesse de caractère du prophète, parce que c'est ça qu'on doit retenir de l'étude de la sirat, pas uniquement des faits, des événements et des chiffres. Moi, j'ai horreur de ces examens de sirat qu'on fait aux élèves, les examens traditionnels où on veut que des chiffres. Bataille de Badr, quelle année, combien de personnes, combien de musulmans, combien de machins, combien de tués, combien, et ainsi de suite. C'est bien de connaître, c'est de la connaissance religieuse, mais c'est pas ça le but de la sirat. On n'étudie pas un événement historique. On apprend les leçons à retenir, la noblesse de caractère, d'accord. Donc là, je donne un exemple. On est à Medina, le prophète alayhi salat wa salam est assis à la masjid Nabawi en compagnie de ses sahabas. Un bédouin se présente à lui. Et quelles étaient les caractéristiques des bédouins? En un mot, oh oui, un peu sauvage, oui, brut, manque d'éducation et manque de tact, de politesse, tout ce que vous voulez. Al-A'rabu ashaddu. Attends, vous connaissez pas Yad du tout? Non, mais c'est pas possible, ce garçon-là. Al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqa. Les bédouins, c'était vraiment compliqué. Alors donc, imaginez que c'est moi, enfin, astaghfirullah, on est dans une assemblée, quelqu'un vient, et j'allais faire sur le frère, mais vu sa corpulence, je peux le casser. Quelqu'un vient et vous prend par le col et il râle votre kafni. un tel point que ça fait une trace rouge. Une trace rouge sur le cou. Tellement ce bédouin avait tiré sur le, je sais pas comment on appelle ça, l'étoffe ou la couverture du prophète qui était sur lui. Ça a laissé une trace pour lui dire où est mon argent. Effectivement, il y a un emprunt avec cette famille, mais l'échéance n'était pas encore arrivée. Il est venu plus tôt. Le Sahaba bouillonnait. Ils étaient prêts à sauter dessus et tout, mais ils attendent et ils regardent comment réagit le prophète avant tout. C'est exactement comme on passe à dire, il faut suivre là. Si vous perdez le fil, je ne peux pas vous rattraper. Comme une fois le prophète dit dans la Masjid Nabawi, on est à Madina, donc un bédouin, encore un bédouin. Il vient dans la Masjid Nabawi et qu'est-ce qu'il fait? Il fait pipi, il urine. C'est quoi ton nom?
Safouane.
Safouane. Il faut soigner, t'as tout jeune homme. Hein? Papa te donne des médicaments? Je vais te donner le numéro vert sinon. Donc, Safouane, est-ce que c'est possible de faire pipi dans la mosquée? Astaghfirullah. Comment tu t'appelles toi?
Ayman.
Ayman, personne ne fait pipi dans la mosquée. Si tu vois quelqu'un faire pipi dans la mosquée, tu fais quoi? Tu appelles papa. Ou tu vas dire à quelqu'un. Un bédouin entre dans la Masjid Nabawi et se met à uriner. C'est pas dans un petit coin. Ben, il y avait pas comme on dit, il y a le Jamaat Kanacho, c'était la salle de prière. Il trouve un poteau, il fait pipi, il urine. Le sahaba bouillonne. Prêt à. Et Naki, normal, Ibn al-Khattab quand même. Ah, il jouait pas, rien. Il jouait pas écoute, rien. Ibn al-Khattab peut soulever en 2 secondes. Mais il regarde comment réagit le Prophète sallam avant. Parce que c'était lui leur modèle. Le prophète alayhi salat wa sallam dit aux sahaba, on attend. On attend quoi? Oustad, on attend quoi? On demande aux plus âgés, aux plus sages. J'entends pas.
Qu'il termine.
Et pourquoi le prophète voulait qu'il termine? Il y a dans les commentaires du hadith, parce que s'il l'avait arrêté alors qu'il était en train d'uriner, c'est quelque chose de très mauvais pour lui. C'est-à-dire qu'il est en train de faire quelque chose de déplacé, mais le prophète ne veut pas qu'il ait mal. Et les médecins, urologues et ainsi de suite, on n'a pas besoin d'avoir un urologue pour ça, c'est connu que si quelqu'un est en train, excusez-moi, j'utilise ce terme, quelqu'un est en train d'uriner, et s'il n'a pas terminé et qu'il se retient, il arrête, c'est très 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 mauvais. Pour la vessie, je ne connais pas tous les termes techniques, mais c'est très mauvais pour le système urinaire. C'est pour ça que le prophète a interdit aux sahaba de le bloquer. Ajib, hein? C'est-à-dire que le najasa, l'impureté, est en train de se répandre de plus en plus. Mais le prophète ne regarde pas uniquement le côté impureté. Il regarde le côté humain. Et il sait que cet homme-là, c'est un jahil. Il ne connaît pas. Et le prophète a de la pitié et de la clémence pour celui qui ne connaît pas. Parce que lui, c'est Nabi al-Rahma. Rahmatan lil'alamin. Il est là pour apprendre, pour enseigner aux gens. Il n'est pas là pour reprocher, pour insulter, pour chasser. Pour 2 fois rien, on chasserait quelqu'un de la mosquée, oui ou non? Un marmaille, quoi, 2 coups, tout de suite, il crie à Kliv. Kif! Au nom de quoi? C'est lui qui sera premier saf demain. Si tu l'as dégoûté de la mosquée, et qu'à chaque fois qu'il vient, tonton là, il crie à moi, putain, fait namaz, tonton là, viens, il prend à moi, il met à moi dehors et tout. Vous pensez qu'il va continuer à aimer venir à la masjid? Ou il va se sentir amoindri? Que quand il vient ici, on me considère comme un moins que rien. Lui, il reste son cas, il joue iPad. Juste parce que je veux la perfection de la masjid. Je veux que ce soit parfait. Non! Le prophète, alayhi salat, ou ça. Non, il faut qu'on ait du respect pour les enfants. Ça, les tontons qui prennent les enfants qui sont en train de faire namaz parce qu'ils sont petits, ils cassent le namaz pour les mettre dehors. Le prophète, quand il faisait salam aux gens, il faisait salam aux enfants aussi. C'est-à-dire que psychologiquement, c'est prouvé, l'enfant a besoin de la reconnaissance des adultes. Il a besoin de voir, de le regard des adultes qu'on te considère comme quelqu'un. Donc, le prophète, alayhi salat, c'est voilà, que le najasa, l'impureté est en train de se répandre à la Masjid Nabawi. Mais lui, ce qui l'importe, c'est l'être humain. Ne pas vexer la personne et qu'il n'ait pas mal physiquement non plus. Et donc, quand il a terminé, c'est tellement beau. La façon, l'approche, mais en français, il n'y a pas cette saveur et ce nectar. Il va voir ce bédouin. Dommage, je n'étais pas prévu de citer ça aujourd'hui. J'aurais ramené le texte du hadith. Et il va voir cette personne. Tu sais, ce genre d'endroit n'est pas fait pour ce genre de choses. Allahu Akbar. Cette sagesse. Ce genre d'endroit, c'est un endroit béni. C'est pas adapté pour ce que tu es en train de faire, ce que tu viens de faire. Et là, ce bédouin était tellement touché et honoré de la façon dont Nabi Rahman lui a parlé, qu'il a demandé, il a dit au prophète d'Allah, demande à Allah d'avoir pitié pour moi et pour toi, ainsi de suite. C'est-à-dire que il vient auprès du prophète sallam et voilà, il se sent proche de lui maintenant. C'est hidayah pour lui. D'accord? Donc, je reviens à cette histoire, il tire sur le châle du prophète sallam, les sahaba, ils attendent de voir comment le prophète réagit, ils étaient prêts à le frapper. Le prophète dit non, c'est pas grave. Il dit qu'effectivement, il y a une somme, mais c'est pas le hein. Mais c'est pas grave. Telle personne ramène, je sais pas, 10 dirhams, 50 dirhams et tout, et rend. C'est pas grave. Donnez son argent. Khalas. On va voir ça entre nous après. Il n'y a pas un reproche, une remarque. Donc maintenant, imaginez que quelqu'un vient de cette assemblée, de Rahiq al-Maktoum, il est 21h52. Quelqu'un vient de moi, l'autre fois, où il a fait ça, ou machin et tout. Déjà dit, écoute, je suis dans un majlis. Et tu ne peux pas débarquer comme un sauvage comme ça. Il y a une assemblée religieuse, c'est béni. Tu ne peux pas rentrer et parler des choses qui te concernent. Au moins, attends que j'ai terminé. Un. Deuxièmement, qu'on cause avec moi. Là, on me dit, on cause bien. Garde pendant comme ça. Hein. Enfin bref. Là, le côté Wahshi relève. Hein, Rachid. Le côté, voilà. C'est-à-dire qu'on on défend notre nafs. Mais non, le Prophète n'a jamais réagi. Mais je vous dis bien, jamais. Et quand on voit l'histoire, ça, on avait cité un peu la dernière fois, lorsqu'il va à Taïf, on sait qu'est-ce qui s'est passé à Taïf. Je conseille ceux qui vont à Umrah, allez à Taïf. C'est tout ça, c'est beau et c'est magnifique. Et donc, quand l'ange des il reçoit la position de l'ange des montagnes pour écraser Ben Al-Arshaben et tout, le prophète dit non. Allah va tirer de leur progéniture, fils, petit-fils, des gens qui adoreront Allah. C'est ça que nous devons retenir, entre autres, de la vie, et de l'étude de ça, de sa sirat. On va s'arrêter là, je ne sais pas combien de temps on a fait, mais il y avait cinq façons différentes, et on va voir qu'il y a des méthodes beaucoup plus perverses, c'est-à-dire des méthodes beaucoup plus fines, et une personne particulièrement qui était quelqu'un qui avait étudié les traditions perses et tout, et quand il voyait que le prophète faisait une prêche, il attendait. Quand il avait terminé, il prenait la parole juste après. Il pouvait dire toute autre chose avec beaucoup d'éloquence. Et quand il a fini, il va voir tout le monde et dire « Est-ce que j'étais pas plus éloquent que lui ?» Et le prophète assiste. Il entend tout ça. Maintenant, imaginez, là, je fais mon programme de sirat. Ça n'existe pas. Hein. Et un laddou, je vais utiliser le terme le moins virulent, d'accord ? Sucré, mais pas virulent. Un laddou qui vient et une corne de gazelle qui vient et qui refait mon programme. Il dit, bon, vous avez écouté Cheikh Ibrahim, khalas, à mon tour maintenant. Alors, Abid dit, alors, mais t'es pas mieux que Ibrahim. Il est normal qu'on s'emporte. Il dit, mais au tel degré de bassesse, d'accord, le prophète a vécu tout ça. C'est des choses qui ont fait très mal au prophète, alayhi salatu wassalam. Et on continue. Si on retourne, on repart à Madina, et quand il y avait le fameux hadith ou l'ifk, qui est traduit par, ah, j'ai pas le bon terme, là, quand ils avaient accusé Aïcha, radiallahu anha, d'avoir fait le zina. C'est-à-dire que c'était les munafiqines qui ont vu qu'ils avaient tout essayé pour éliminer le prophète sallam, même sur le plan physique, avec les coalisés, en faisant des alliances et ainsi de suite, ça n'a pas marché. Ils vont essayer de l'atteindre dans sa famille. Il n'y a rien de plus grave et de plus blessant pour un homme que de faire courir à la rumeur que sa femme l'a trompé. Et les savants disent, je sors légèrement du sujet, mais énormément, que la sunna d'Allah, c'est que jamais un prophète n'a été trahi par sa femme. Il se peut qu'un prophète voit sa femme ne pas accepter le message, comme le prophète longtemps, alayhi salam, d'accord, et que sa femme était restée et ainsi de suite, qu'elle n'accepte pas le tawhid. Et qu'elle meurt mouchrika, oui. Mais qu'une femme trompe son mari prophète, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire des prophéties, parce qu'Allah a protégé la izzat, l'honneur de ses anbiya alayhimu salat. Et donc là, ils essaient toujours, prophète sallam, à travers son couple. Ça l'a fait très mal. Mais là également, beaucoup de sagesse, sans remettre à Allah, qu'Allah Rabbul Izzat nous permet de comprendre ces grandes leçons de noblesse, de caractère. Et la conclusion qu'on voulait faire tout à l'heure, je le fais rapidement, mais on le refera dans les autres programmes de Sirat, avec toutes ces difficultés, on n'en a vu qu'une seule, hein, une seule tentative, il y en a quatre autres, et plus encore, vous ne pensez pas une seconde que le prophète faisait beaucoup de doigts, qu'Allah enlève ces difficultés ? Sans le moindre doute, que le prophète s'adressait à Allah, levait les mains, munajat, il a rabbi, demandait à Allah de le dernier tiers de la nuit, comme il avait l'habitude de faire, demandait du'a de tahajjud, de lui accorder son aide, de guider ses gens, et qu'Allah enlève les difficultés. C'est clair que le prophète faisait du'a, on est d'accord? Bien. Vous ne pensez pas une seconde qu'Allah aurait pu accepter ses du'a? Kun fayakun. Vous ne pensez pas une seconde que c'était la volonté d'Allah que ces gens reviennent vers le dîn? Oui ou non? Bien sûr que oui. Mais c'est là qu'on voit toute la complexité du destin et la sagesse d'Allah de ses décisions. Allah laisse ces situations de difficulté parce qu'il y a un khair dedans. Et il y a une ouverture après ça. Donc moi, musulman, quand je vis une situation d'épreuve et que je fais du'a, je fais du'a, je fais du'a, je suis près du multazam, je prends la porte de la Kaaba, je suis debout, wukuf Arafat, je fais du'a, où Allah enlève telle difficulté, et que tu vois que malgré toutes ces du'a, Allah n'accepte pas ton invocation, Allah n'enlève pas la difficulté, ne désespère pas, et ne pense pas une seconde qu'Allah ne t'a pas accepté, ne t'a pas écouté. Pense juste pour ça, le nombre de du'a qu'il a fait, qu'Allah n'a pas accepté pour une sagesse. Tu te dis que c'est hikmatullah, et tu acceptes, tu fais istislam. Énormément de leçons retenues de la sirah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Vendredi on fera programme au latani inchallah, mais pareil on va continuer al rahiq al makhtum. Jazakallah.